grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2024, 107 femmes ont été victimes de féminicides directs au sein du couple et la même année, le nombre de suicides ou tentatives de suicide dues à un harcèlement par conjoint ou ex-conjoint était en hausse de 17% par rapport à 2023. Notre invitée, Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, membre du Haut Conseil à l'égalité, autrice de « Déviriliser le monde, demain sera féministe ou ne sera pas » aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous faire part des premiers signes d'alerte, ces signes qui doivent alerter les femmes?
Il y a des moments surtout clés, des moments de danger, particulièrement le moment des séparations et puis le moment des grossesses. Ce sont deux moments à risque pour les femmes, puisqu'il faut rappeler que les féminicides, ce sont des crimes sexistes, basés sur l'idéologie sexiste qui fait que les hommes vont être extrêmement possessifs et penser que leur femme leur appartient et doit rester sous leur contrôle. Et le moment de la séparation, c'est le moment où leur conjointe leur échappe. Et ça, souvent, ça leur est insupportable et ils commettent le pire, c'est-à-dire les féminicides. Alors ensuite, il y a différents types de féminicides. Il y a des féminicides pour lesquels il y avait déjà un certain nombre de violences, mais plus des violences psychologiques, des phénomènes d'emprise et ou ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Donc tout un tas de stratagèmes visant à contrôler les actions de leur conjointe, et puis parfois des violences physiques qui accompagnent les violences psychologiques, mais le féminicide n'est que l'aboutissement d'un système de violence mis en place par le conjoint depuis longtemps, et beaucoup de femmes qui ont été tuées par leur conjoint avaient, pour certaines, porté plainte. Et ça, c'est vraiment inadmissible. On doit développer absolument une culture de la protection en France pour que, effectivement, à la première plainte, au premier signalement, on puisse déployer un certain nombre de dispositifs visant à les protéger de leurs conjoints violents.
Vous évoquez les violences psychologiques. Cela peut parfois sembler anodin. Un homme peut, par exemple, faire une remarque sur la tenue de sa femme. Cela peut commencer tout simplement comme ça.
Alors oui, ce qu'on appelle le contrôle coercitif, c'est vraiment une notion qu'il serait bon de comprendre. C'est l'ensemble des petites choses qui fait que l'homme va contrôler sa femme, contrôler sa tenue, contrôler avec qui elle parle. Par exemple, refuser qu'elle parle avec des hommes, refuser qu'elle sorte sans lui dire où elle va, réclamer le code de son téléphone portable pour pouvoir voir avec qui elle discute ou pas. Il y a vraiment une stratégie de contrôle et d'isolement qui fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. Et je conseille vraiment à tous et à toutes, pour savoir un petit peu où vous en êtes, d'utiliser un outil qui a été développé par les associations féministes qui s'appelle le violentomètre et qui permet de mesurer sur une échelle du très vert, c'est-à-dire une relation saine avec un couple égalitaire, à l'orange, où on commence à avoir des signes de ce contrôle coercitif, jusqu'au rouge, où effectivement, on a des violences, des humiliations, et puis cette tentative absolue de contrôler, isoler, pour pouvoir ensuite commettre des violences en toute impunité. Nous devons développer effectivement une compréhension de ce contrôle coercitif pour comprendre ce qui aboutit à ce système de violence conjugale qui fait aujourd'hui 225 000 femmes. 225 000 femmes sont aujourd'hui victimes de violences conjugales en France. C'est un chiffre qui ne baisse pas, sur lequel il faut vraiment qu'on ait davantage de volonté politique. Et nous, associations féministes, nous avons des revendications sur cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Et parce que ce qu'il faut combattre également, c'est le déni qui a lieu parfois.
Oui, la difficulté que nous avons, c'est que depuis MeToo, depuis 2017, on a un changement de paradigme majeur. C'est-à-dire que auparavant, tout était tabou. Il y avait vraiment un tabou sur les violences conjugales. On n'en parlait pas. Les violences sexuelles, ou même les violences sexuelles contre les enfants, qui sont extrêmement prégnantes. 165 000 enfants sont violés chaque année en France. 153 000 majeurs, essentiellement des femmes, sont violés également en France. Et aujourd'hui, on en parle. Et ça, c'est vraiment une victoire de MeToo. Nous sommes passés de 7 000 plaintes à 22 000 plaintes. C'est énorme. Les femmes parlent. Elles réclament justice. Malheureusement, aujourd'hui, le déni se situe au niveau de la justice. Il y a encore aujourd'hui l'essentiel des plaintes qui n'aboutiront pas à un procès. Plus de 90% des plaintes n'aboutiront pas à un procès parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Alors, ça passe d'abord par le refus de plainte. Ensuite, il y a des classements sans suite, des prescriptions, des non-lieux. Et les classements sans suite qui sont massifs par le système judiciaire font qu'aujourd'hui, nous arrivons à un déni de justice. Et donc, dans les propositions que nous avons, nous avons des propositions pour déjà développer la culture de la protection, c'est-à-dire déployer davantage ce qu'on appelle ordonnance de protection qui va obliger l'éloignement du conjoint ou les téléphones grave danger qui permettent également aux victimes d'appeler en cas d'urgence. Et puis également aussi améliorer les enquêtes et que des enquêtes soient systématiquement menées avec un certain nombre d'actes obligatoires avant les classements sans suite. Aujourd'hui, on classe à tout va. Et aujourd'hui, si les femmes portent plainte, elles méritent la justice et elles méritent qu'on aille jusqu'au procès, jusqu'au bout. Il va falloir mettre des moyens et puis de la formation des professionnels. Formation des policiers, formation des magistrats. Nous voulons que l'ensemble de la chaîne police-justice soit formée à cette question des violences sexistes et sexuelles pour recueillir au mieux la parole des victimes. Et c'est pour cette raison que plus de 100 associations, nous nous sommes réunis dans une coalition, la coalition pour la loi intégrale, et nous avons 140 mesures concrètes basées sur notre expérience de terrain pour améliorer la protection, la détection de ces violences et puis la prise en charge de ces violences. Ce sont 140 mesures et nous sommes extrêmement contentes que cette initiative ait abouti à une initiative politique cette fois-ci, puisque une proposition de loi reprend un certain nombre de nos revendications pour qu'enfin on acte qu'il va falloir se bouger et modifier effectivement, améliorer la loi pour améliorer la prise en charge des violences sexistes et sexuelles en France.
Sur la question du logement d'urgence, quelle solution proposez-vous ?
Alors, la première des propositions, c'est qu'on finance les associations qui s'occupent aujourd'hui, qui ont vraiment un rôle de service d'intérêt général et qui font ce travail d'accompagnement au quotidien. Et aujourd'hui, la situation des associations de terrain, le FNCIDFF, la FNSF, par exemple, qui gère la ligne nationale d'écoute, le 3919. Donc, si vous êtes victime de violences conjugales, vous devez appeler le 3919, ou bien même le CFCV, le collectif féministe contre le viol, qui gère la ligne nationale d'écoute contre le viol. Toutes ces associations sont financièrement exsangues. Et il manque des places d'hébergement d'urgence. Donc, la première des priorités, c'est le financement de ces places d'hébergement d'urgence et qu'on donne des moyens à cette politique qui est absolument essentielle pour que ces femmes, premièrement, puissent se mettre à l'abri et se reconstruire effectivement loin des violences du conjoint. En 2017, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles était la grande cause du quinquennat, mais nous n'avons jamais, jamais eu de budget associé à cet objectif. Maintenant, ça suffit. Nous devons avoir effectivement du budget pour pouvoir protéger ces femmes et les mettre à l'abri. Et puis, effectivement, que la justice les entende, elle parle, elle porte plainte. Et il doit y avoir aujourd'hui vraiment une prise en compte de cette colère aujourd'hui de la société française face à un système d'impunité et de déni de justice. Nous voulons effectivement que pour que les chiffres des violences baissent, qu'il y ait effectivement une politique à la hauteur des enjeux. Et nous avons aujourd'hui des propositions très claires qui, j'espère, seront effectivement entendues à l'Assemblée nationale et par le gouvernement pour effectivement agir contre l'ensemble des violences. On a parlé des violences conjugales, des violences sexistes et sexuelles, mais il y a aussi également les violences faites au travail sur lesquelles on peut agir, les cyberviolences qui sont en train d'exploser aujourd'hui, en particulier le partage non consenti de contenu à caractère sexuel, qui est vraiment une violence énorme pour pour les femmes et les filles qui en sont les victimes. Et puis les violences aussi dans la santé, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc il y a vraiment tout un tas de mesures que nous proposons avec cette coalition de la loi intégrale et nous attendons maintenant une réaction du gouvernement.
Merci beaucoup, Céline
Pic. Merci.
Je rappelle que vous êtes la porte-parole d'Oser le féminisme. Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité, autrice de « Déviriliser le monde, demain sera féministe, tout ne sera pas ». C'est aux éditions rue de l'Échiquier. Rappelons bien entendu ce numéro pour les femmes victimes de violences, le 3919. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.